1, 2, 3, 4.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour votre vie lausannoise. C'est votre heure de grand direct du mardi soir. Trois sujets au menu de ce soir. On va commencer cette émission, comme chaque premier du mardi du mois, par la pause syndicale, Fabio. Et ce soir, nous allons aborder, avec un peu d'avance certes, mais c'est un sujet qui vaut le détour. C'est une initiative soumise aux votations. Ce sera le 4 mars prochain. Il s'agit de Nobilag.
Oui, Fabien, une initiative très dangereuse pour la démocratie. En effet, si elle passe, si elle devait passer, la Confédération ne pourra plus financer les médias de service public, donc plus de radio ni de TV nationale. Plusieurs médias locaux devront cesser d'émettre, sauf Radio Django.
Eh bien, évidemment.
Ça va, en fait, ça va être un cataclysme à proprement parler. Et il faut se mobiliser dès tout de suite pour ne pas laisser ni les milliardaires, ni les médias pauvres et bêtes, on en a un certain nombre en tête, se charger de nous informer.
Voilà, on ne va pas donner de liste évidemment, Fabio, mais pas grave. Du coup, on parle du côté syndical hein, ce soir, de cette initiative.
Oui, syndical, mais bien sûr avec comme fond cette épée de Damoclès qui est sur la tête des radios publiques.
Effectivement. Et bien sûr, les radios et les télévisions. On aura l'occasion d'ailleurs, en début d'année, d'aborder d'autres thématiques concernant cette initiative Nobilag. Ça, c'est le premier sujet, Vivre à Lausanne ce soir. On passera en deuxième sujet, Daniel, à la Rose des Vents. Et ce soir, nous allons parler des droits de l'homme.
Oui, bonsoir Fabien. En effet, j'ai pu rencontrer le 18 novembre Lisa Bosia Mira, à l'origine de cette marche Benveni, fugitive marche. Organisée pour dire non à une politique d'asile de plus en plus restrictive, pour dire non également à une Suisse qui n'est plus très accueillante. Et l'idée donc, c'est de dénoncer ces dérives actuelles. Et elle a organisé, avec le nouveau groupe politique Comité pour une nouvelle politique migratoire, une marche qui est partie le 14 octobre, de Bellinzona. Et il regagne le Tessin dans une petite semaine.
Mais oui.
En ayant traversé le désert humain, le froid, mais qui ont rencontré des associations merveilleuses et qui montrent qu'on peut imaginer une Suisse plus ouverte.
Bah oui, ne nous dites pas tout, on découvre tout ça dans quelques minutes. Dans la Rose des Vents, enfin, à 7h20, avec une nouvelle voix de Django, Isara, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Nous allons conclure cette émission ensemble avec la découverte d'un lieu d'exposition à Lausanne. Il s'agit de la Placette.
Et oui, la placette a ressuscité, mais sous une autre forme que celle qu'on connaît,
oui, effectivement.
Qu'on connaissait à l'époque. C'est en fait un espace d'art contemporain qu'on peut trouver à Lausanne, dans une petite rue, c'est la rue près du marché. Et cet espace d'art a ouvert ses portes en 2004, donc ça fait déjà un petit moment, et a déjà exposé 158 artistes confirmés ou émergents de la scène romande.
Et puis ce soir, on reçoit donc deux invités pour en parler.
Voilà, on a Madame Lorraine Pidou, la présidente de la Placette, et aussi l'artiste Bruno Eberli qui expose actuellement.
Voilà, l'histoire de faire la découverte de ce lieu, la Placette. La pause syndicale et l'initiative Nobilag, les droits de l'homme au travers d'une marche et un espace d'exposition qui s'appelle la Placette, c'est le programme de cette 123e édition du Grand Direct qui est à écouter jusqu'à 19h sur radio.django.fm et en DAB sur La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Nous sommes le premier mardi du mois de décembre et comme il ne faut pas perdre les bonnes habitudes, voici donc notre mensuelle rubrique syndicale préparée par Valérie et Fabio. Aujourd'hui, nous nous intéressons avec une invitée sur le plateau à l'initiative Nobilag. Pour nous rappeler brièvement le contexte, l'initiative Nobilag demande que la Confédération soit interdite de prélever une redevance ou un impôt pour financer des médias, donc de se servir d'argent public pour financer des médias publics. Une initiative lancée en 2015 par une alliance des jeunes PLR et des UDC. Elle a été rejetée clairement et sans contre-projet par les chambres fédérales, mais bénéficie d'un fort soutien médiatique en Suisse alémanique, plus particulièrement, Fabio.
Oui, et les trois syndicats regroupant les journalistes et les professionnels des médias, SSM, Impressum et Syndicom, appellent à voter contre cette initiative. La suppression des redevances signifierait en effet l'impossibilité pour bon nombre de médias de produire un contenu informatif et culturel de qualité qui tient compte des minorités linguistiques, étant donné que ces régions bénéficient d'une grande part de leurs revenus par la redevance selon la célèbre clé Helvetia.
Oui, et par ailleurs, ce sont des milliers d'emplois qui seraient menacés. Pour nous éclairer sur les dangers de cette initiative, nous accueillons aujourd'hui Valérie Perrin, secrétaire du syndicat suisse des masses médias, SSM. Bonjour Valérie Perrin.
Bonjour.
Alors concrètement, Nobilag aura quelles conséquences pour le paysage médiatique national ?
Alors, une des conséquences assez radicales, puisque, comme vous l'avez bien dit au début, le texte de l'initiative prévoit que plus aucun financement public ne sera possible, que ce soit par la redevance ou par l'impôt. Donc, ça signifie, à très court terme, la fermeture de la SSR, la principale détentrice de la redevance, hein, la Société suisse de radio et télédiffusion, qui existe depuis 1931 et qui suit l'histoire de la Suisse depuis cette époque-là, et de 34 radios et télévisions privées qui bénéficient d'une quote-part de la redevance et qui sont également, comme la SSR, soumises à la concession, au mandat de service public.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette fameuse clé Helvetia ?
Oui, alors la clé Helvetia, c'est le nom qu'on donne à une clé de répartition des moyens disponibles pour l'audiovisuel de service public au sein de la SSR. Et elle est tout à fait inédite, donc ça vaut la peine de le mentionner. C'est une clé de répartition qui prévoit que, bien que la Suisse alémanique génère l'essentiel des ressources du service public, elle ne touche que 45,5% de ses moyens, alors qu'elle en génère plus de 70%. En contrepartie, la Suisse romande, qui représente 24% de la population et génère 24,5% des recettes, touche, elle, 32,7%. C'est beaucoup plus spectaculaire encore en Suisse italienne, puisque la Suisse italienne, c'est 4,5% de la population suisse, 4,5% des recettes aussi, et elle touche 21,8% des moyens issus de la redevance. Donc c'est vraiment une répartition solidaire de l'argent public pour permettre, selon la concession, selon ce que prévoit l'article 93 de la Constitution suisse, qui prévoit que toutes les régions linguistiques ont le droit à une radio-télévision de service public généraliste et ont des obligations pour réaliser ce mandat.
Tu disais inédite, donc elle est toute récente ?
Non, elle est assez ancienne, mais elle est inédite au sens où c'est, à ma connaissance, le seul domaine dans lequel on trouve une telle répartition au bénéfice des minorités.
Valérie Perrin, à qui profite le crime si Nobilag venait à passer ?
On est dans l'idée que je ne paye que pour ce que je consomme. Donc ça, c'est la façade, si vous voulez. C'est le prétexte, en quelque sorte. Mais au fond, derrière cette idée-là, il y a l'idée de la libre concurrence. Alors, qui en bénéficierait ? Si l'on en croit la très, très bonne analyse qu'en a fait récemment le conseiller national Roger Nordmann, ce serait d'une part les groupes étrangers et puis d'autre part, et surtout, les gens qui ont beaucoup d'argent en Suisse pour se payer des groupes de presse et orienter. Et on en connaît quelques-uns. Voilà. Les milliardaires suisses.
Le nombre de licenciements, on l'imagine, il est conséquent, hein, puisque c'est la fermeture complète de toute la SSR et par conséquent de nombreuses cascades d'autres entreprises qui bénéficient de la redevance. On le chiffre à combien le nombre de licenciements ou de pertes d'emplois, Valérie Perrin ?
Alors, on a chiffré à 13 500 les emplois directs et indirects qui sont calculables, c'est-à-dire les 6 000 emplois à la SSR, à peu près 600 dans les radios et TV privées qui bénéficient d'une part de la redevance. Et le reste, ce sont des entreprises qui travaillent directement avec la SSR pour une bonne part, des prestataires de différents services, que ce soit, imaginons, je sais pas, la lumière, l'électricité. Enfin, il y a toute une série de métiers qui sont concernés. Et ces 13 500 ne comprennent pas tous les métiers du domaine de la culture qui dépendent directement de la politique culturelle du service public.
Donc là, on parle de 13 500 personnes qui arriveraient au chômage et qui vont aller pointer à l'ORP.
Voilà, oui, et dont une bonne part dans des métiers captifs, c'est-à-dire des métiers qui ne peuvent être exercés que dans le domaine audiovisuel. Et c'est quelque chose qui sera aussi à la charge de la collectivité.
Alors, face à cette menace, comment réagissent la direction et le personnel de la SSR ? Puisqu'on le rappelle, cette initiative signifie simplement l'interdiction de financer un média public. Alors, ils doivent être sur les barricades, non ?
La direction de la SSR a une position qui consiste à expliquer, à rappeler son rôle, à rappeler le cadre juridique aussi dans lequel elle évolue. Donc ça, ils le font très bien. Maintenant, la SSR et son personnel sont dans une situation particulière. Et là, c'est totalement inédit aussi à ma connaissance. C'est qu'ils ne sont pas en capacité de se défendre. C'est-à-dire que, étant une entreprise de médias, ils sont tenus à un devoir de réserve. Et particulièrement les gens qui se travaillent au sein du département de l'actualité. Il y a un débat très virulent en Suisse alémanique. L'entreprise est très attaquée, donc on est un petit peu sur les pattes arrière sur la question du droit de s'exprimer. La SSR est très accusée de mener campagne et d'être jugée partie. Mais au fond, moi, j'ai envie de tirer un parallèle. Si les paysans se voyaient retirer leurs subventions fédérales, ça viendrait à l'idée de personne de les empêcher de s'exprimer. Et là, on a affaire à une entreprise qui est attaquée au point d'être potentiellement démantelée et fermée. Et les gens qui sont directement concernés ne peuvent pas se défendre. Donc, vous voyez le genre de problématique dans lequel on est en tant que syndicat, parce qu'on ne peut pas se battre seul. On a besoin de nos membres et du personnel.
Il y a des journaux quand même qui prennent la défense des... En Suisse romande, Le Temps, par exemple, a fait beaucoup d'articles sur la situation. Mm-hmm.
Oui, il y a effectivement, dans la campagne qui a commencé assez tôt, il y a toute une série de prises de position maintenant de gens qui commencent à réaliser l'ampleur du cataclysme que ça représenterait et qui commencent à s'exprimer, dont en partie la presse écrite. Mais il y a aussi un espèce de contentieux avec les éditeurs de la presse écrite qui fait que ce n'est pas toujours simple. Alors, je ne connais pas tous les positionnements en Suisse alémanique, mais effectivement, en Suisse romande, on n'a pas trop à se plaindre.
Dans les médias locaux, comment ça se passe, Valérie Perrin ? Vous le disiez à l'instant, une part de la redevance part pour les entreprises de la SSR et une autre part pour des médias locaux. Comment est-ce que ça se passe actuellement pour eux ? Comment est-ce qu'ils voient cette campagne ?
Alors, dans la plupart des radios et télévisions privées qui touchent une part de la redevance, cet argent est essentiel. Hein, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais enfin, il semble clair que ces radios et télévisions privées seraient en très très grande difficulté si elles devaient compter uniquement sur la publicité, tout comme la SSR d'ailleurs, c'est pas imaginable. Donc la plupart ont fait savoir que leur sort serait effectivement le même.
On le comprend, le contexte est extrêmement difficile. Et comment les syndicats des médias imaginent faire campagne ?
Au niveau du SSM, nous avons réfléchi un petit peu à cette campagne depuis plusieurs mois. On se prépare à se battre contre cette initiative terrible. Et on l'a fait avec un coup d'avance, dans le sens où on s'est dit il n'y a pas que nos bilagues, il y aura un après nos bilagues. On espère évidemment y survivre, mais si on y survit, il faudra encore lutter contre les dégradations successives qui vont inévitablement découler d'une pression accrue sur la SSR. Et on sait déjà, avec cette nouvelle redevance à 365 francs, ça signifie quand même 50 millions d'économies. Déjà eu un plan d'économie il y a 2 ans, ça va de nouveau représenter à peu près 300 emplois au niveau de la SSR, et puis ça risque d'être à répétition tant qu'on n'a pas un petit peu modifié ce débat autour du service public. Donc nous, notre ambition, si vous voulez, c'est de recadrer un peu le débat sur le service public à plus long terme. On essaie de voir au-delà, qu'on arrête d'avoir ces stéréotypes sur le service public. Parce qu'au fond, c'est quoi le service public ? C'est ce qui nous appartient. C'est à nous, c'est à vous, à moi. Et ce qui n'est pas service public, c'est ce qui appartient à des privés. c'est ce qui n'appartient pas à moi et à vous. Donc, c'est ces choses toutes basiques qu'au fond, on aimerait bien rappeler. Alors, on cherche la meilleure manière de le faire parce que la problématique est complexe, mais au fond, c'est ça, c'est tout simple. C'est pourquoi on doit absolument préserver le service public, parce que c'est à nous et on en fait ce qu'on veut, au fond.
Ça veut aussi dire une liberté de l'information.
Ça veut dire évidemment la liberté de l'information, une relative indépendance. Je dis relative parce qu'on ne peut jamais être parfaitement neutre et indépendant, mais c'est sûr que les médias publics sont beaucoup mieux placés, beaucoup mieux armés pour prendre de la distance par rapport au pouvoir politique. Donc là, c'est sûr qu'il y a un risque avec cette initiative de livrer la Suisse et le paysage médiatique à des gens qui ont des intérêts privés. Je ne vois pas dans l'intérêt de qui ça peut être, à part ceux qui détiennent ces intérêts privés.
Valérie Perrin, finalement, tous les grands partis de Suisse et les syndicats appellent à rejeter cette initiative. Pourquoi est-ce qu'il faut encore se mobiliser, finalement ?
Parce que personne n'a cru au Brexit, à l'élection de Donald Trump. Le Bilexit pourrait nous surprendre tous. Et puis on imagine, ça n'a même pas l'air d'être de la politique fiction, d'imaginer le lendemain du vote No Bilag, des communiqués de presse de différentes associations qui écrivent « ce n'est pas ce que nous voulions envoyer un signal à la SSR qui est trop grande, trop arrogante, on ne voulait pas ça ». Eh bien, ça pourrait quand même arriver. Voilà. Et quand je vois sur les réseaux sociaux, la quantité de commentaires de gens qui, au fond, n'ont pas compris que la redevance, c'est les programmes et non pas une taxe comme une autre, alors qu'ils trouveraient tout gratuit sur Internet, je pense qu'il y a de quoi se faire du souci. Les gens sont maintenant habitués à penser « j'ai Netflix, donc je n'ai pas besoin de payer ».
En fait, ce que vous êtes en train de dire et de préciser, c'est « Bilag perçoit une redevance qui permet de produire du contenu ».
Bien sûr, oui.
Et ce n'est pas une redevance qui permet de financer un support.
Exactement.
Parce que finalement, les contenus de la SSR, on les retrouve pas seulement à la radio, pas seulement à la télévision, mais on les retrouve aussi, par exemple, sur Internet,
bien
pour
sûr.
Les jeunes consommateurs qui veulent consommer à la demande.
C'est ça. Ouais, c'est vrai que le débat sur la génération, on parle les pros, les gens qui sont pour cette initiative, parlent de la télévision de papa, mais on parle de contenu, on ne parle pas du support, on ne parle pas du véhicule.
On le disait, cette votation aura lieu le 4 mars 2018, donc dans à peine plus de 4 mois. Si on souhaite s'engager, comment est-ce qu'on peut le faire pour militer pour cette lutte ?
Il y a plusieurs possibilités. Au sein de notre syndicat, on invite évidemment tous les salariés de la SSR à se joindre à nous dans la mesure du possible. Il y a des gens qui peuvent difficilement le faire parce qu'ils sont trop connus, c'est des porteurs d'image. Mais il y a quand même la majorité du personnel peut et devrait s'engager. C'est un droit fondamental, agir au sein d'un syndicat. Sinon, il y a d'autres associations, il y a des comités régionaux qui appellent à des soutiens financiers, mais aussi à la participation des gens. Et puis, j'aimerais quand même signaler que du côté du SSM, donc on se prépare à cette campagne depuis longtemps. Comme je l'ai dit, on est actuellement sur les réseaux sociaux, assez actifs. Mais à partir du mois de janvier, on va faire une véritable campagne externe. Et nous avons prévu récemment, nous avons débloqué le fonds de lutte du syndicat et nous avons prévu 4 grandes actions d'envergure au plan national qui se produiront entre en gros le 8 janvier et mi-février. Voilà. Donc à cette occasion, on appellera les gens à nous rejoindre et notamment les alliés des autres syndicats.
Voilà, donc pour vous, si ça vous intéresse, à pouvoir vous investir pour lutter contre cette initiative. Quelques informations également sur votre site. Vous pouvez nous rappeler peut-être le lien de votre site internet.
Oui, alors c'est un site web de campagne qui s'appelle madeinswitzerland.media.
madeinswitzerland.media pour retrouver toutes les informations.
Peut-être juste la page Facebook.
Oui, bien sûr, allez-y.
Elle marche assez bien. C'est un endroit où il y a beaucoup d'échanges. C'est non à l'initiative No Bilag.
Voilà, avec même des petits tags qui sont possibles maintenant sur les photos de profil pour militer pour cette cause. Merci beaucoup Valérie Perrin. Un grand merci d'être venue nous parler ce soir de cette initiative qu'on va voter le 4 mars qui est intitulée No Bilag. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat suisse des mass médias SSM pour la région de Suisse romande. Merci beaucoup, une bonne soirée.
Merci vous aussi.
Un sujet qui était préparé ce soir par Valérie et Fabio. Et à 18h19, on ouvre le journal des brèves de cette pause syndicale du 5 décembre avec Valérie et Fabio.
raclette syndicale SEV à Lausanne.
Mardi 28 novembre, une centaine de collègues se sont rencontrés à l'espace Dickens à Lausanne lors de la traditionnelle raclette syndicale organisée à l'invitation des fédérations SEV des CFF actives à la gare de Lausanne. Entre deux raclettes, l'accent a évidemment été mis sur les négociations à venir l'année prochaine sur la convention collective CFF-SCFF Cargo. 2018, c'est l'année des défis, a rappelé Jean-Pierre Ettic, secrétaire syndical au SEV, le syndicat du personnel des transports. Le 19 janvier, déjà, aura lieu la première rencontre entre la délégation des syndicats, dont le SEV, et celle de la direction des CFF, dont l'attitude est toujours plus libérale et toujours plus agressive par rapport à certains acquis, comme l'interdiction de licencier pour des raisons économiques. Chacun est reparti avec la conviction que la solidarité entre cheminots est un bien très précieux et que le repli sur soi n'a jamais permis de grandes avancées sociales.
Migros, j'y vais matin, midi et pourquoi pas à minuit.
Uniavo a lancé l'offensive contre les extensions des ouvertures de magasins en semaine chez Migros. En effet, à Bussigny, Crissier, Écublens, Épalinges, Oron ou Puy, le géant Orange ouvre ses portes désormais jusqu'à 20h tous les soirs de la semaine, sans compter les vendredis de nocturne. Dès lors, les conditions de travail et la vie familiale des vendeuses, car il s'agit avant toute femme, en prendront un coup. Unia dénonce l'absence de véritable consultation auprès du personnel. Le 20 novembre, premier jour de ces nouveaux horaires, une équipe de syndicalistes a tracté et distribué des cabas Migros au slogan détourné à Épalinges dans le genre « Aime comme ma famille me manque ». Le 29 novembre, c'est en peignoir et pyjama que les syndicalistes accueillaient les clients aux petites heures devant le magasin d'Oron-la-Ville. D'autres actions sont encore prévues et une pétition a été lancée pour soutenir les vendeuses. Elle est disponible sur le site internet du Niavo.
Travailleurs jetables.
Unia est intervenue jeudi dernier dans les bureaux d'un patron à Vucheron pour récupérer les salaires impayés de trois travailleurs licenciés en juin et septembre par la société CE Construit. L'employeur, qui s'était pourtant engagé à régler rapidement la situation, a finalement prétexté qu'il n'avait pas les moyens de verser les quelque 23 000 francs qu'il devait aux travailleurs. Active sur un chantier de transformation et de rénovation à Moudon, la société a peu à peu licencié tous ses employés, puis fait appel à des sous-traitants pour terminer le travail. À Vucheron, le bras de fer entre syndicalistes et patrons a duré toute la journée, sous la bonne garde d'une dizaine de gendarmes appelés pour déloger les secrétaires syndicaux et les ouvriers lésés du bureau de l'entreprise. En fin de journée, les syndicalistes ont quitté les lieux sans qu'un accord n'ait été trouvé. Unia attend des nouvelles du patron sur les reconnaissances de dettes proposées. Le syndicat a aussi découvert que ce dernier avait une ardoise auprès des assurances sociales de plusieurs milliers de francs.
Caisse de pension de l'État de Vaud, les salariés montent aux barricades.
Le conseil d'administration de la caisse de pension de l'État de Vaud prétend qu'elle est en difficulté et que les salariés doivent payer pour la renflouer. Ainsi, il a décidé d'augmenter l'âge de la retraite de 2 ans. C'est inacceptable, disent les salariés soutenus par les syndicats qui refusent de travailler 2 ans de plus pour toucher une rente réduite. De même, ils refusent une proposition alternative du Conseil d'État qui propose un prélèvement supplémentaire sur les salaires. À titre d'exemple, une personne gagnant un salaire annuel brut de 85 000 francs, soit 6 500 francs par mois, perdrait 152 francs de salaire net par mois si la solution du Conseil d'État était retenue. L'heure est donc à la mobilisation. C'est pourquoi les syndicats appellent à une assemblée générale de la fonction publique ce jeudi 7 décembre au Casar, à Lausanne, à partir de 19h. C'est là que tous les secteurs actuellement mobilisés de la fonction publique débattront et décideront des mesures de lutte à envisager.
La saga des fermetures postales continue.
Le 30 novembre, le bureau de poste de Montreux-Chailly a définitivement fermé ses portes en présence de Syndicom, du Parti Socialiste de Montreux et du POP Riviera. Plusieurs citoyennes et citoyens ont aussi fait le déplacement. Sur place, on a évoqué l'idée de lancer un mouvement citoyen pour sauver les offices menacés dans la région Vevey-Montreux. En effet, de nombreux offices sont encore menacés dans la région, à Chardonne, Jonny, Saint-Légier, Chernay et même à la Tour de Paix Clarens et Blenay dès 2020. Pour mémoire, la Poste prévoit la fermeture de 600 offices en Suisse et cela représente la suppression de près de 2000 emplois.
Radio Django,
Vivre à Lausanne.
Voilà ce que nous proposait le Monde syndical et ce qu'ils avaient à nous communiquer ce mardi 5 décembre, dernière pause syndicale pour l'année 2017. Rendez-vous le mardi 6 février 2018. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes ces chroniques sur notre site www.django.fm.
Radio Django, la Rose des Vents.
Ce soir dans la Rose des Vents, un sujet sur les enjeux de la marche Benveni Fugitive March, une action en faveur du respect des droits humains et de la dignité humaine dans une Suisse qui semble peu à peu s'éloigner de sa longue tradition humanitaire. La marche est partie le 15 octobre à 9h de la Piazza del Governo à Bellinzone et elle parcourra toute la Suisse jusqu'au 10 décembre pour revenir au Tessin, le 10 décembre justement, la journée mondiale des droits de l'homme. Alors Daniel, pourquoi parler de cette marche ?
Le principal objectif de cette démarche consiste à dénoncer une politique d'asile toujours plus restrictive et montrer aussi qu'une autre Suisse existe, plus ouverte et solidaire, avec ceux qui arrivent et pourraient demander l'asile.
Quel est l'organe à l'origine de cette démarche ?
Alors cette marche est née sous l'impulsion du comité pour une nouvelle politique migratoire au Tessin. Ce projet a fortement été encouragé par Solidarité sans frontières et il est aussi soutenu par plusieurs associations humanitaires dont Vivre Ensemble.
Et puis alors, qui sont les marcheurs ?
Des bénévoles, des associations, des citoyens lambda, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Même si effectivement passer d'un canton à l'autre semble difficile pour certains. Tout le monde peut y participer et il n'est pas nécessaire de s'inscrire. De passage à Lausanne le week-end du 18 novembre, j'ai pu les suivre le dimanche matin sur le tronçon Lausanne-Morges. Le groupe partait en direction de leur prochaine étape, Roll. J'ai profité du repas pour interviewer notre invitée de ce soir, Lisa Bosiamira, qui porte cette marche à bout de bras, députée socialiste au Grand Conseil tessinois et fondatrice de l'ONG Firdaus. Lisa, malgré sa condamnation pour avoir porté assistance à des mineurs non accompagnés, ne cesse de défendre les droits humains. Je lui ai demandé en premier lieu pourquoi cette marche.
Cette marche, c'est une marche pour la dignité humaine et les droits. La Suisse, dans les dernières années, a endurci son droit à l'asile, à accéder à la Suisse, et ça devient de plus en plus difficile d'y accéder, d'y rester, d'y vivre en Suisse. Il y a une véritable politique inhumaine qui est en train de se mettre en place, qui est déjà là depuis des années. Pour dire, on entre encore 33 centres de détention administrative. Ils peuvent y être mis en prison des gens qui n'ont rien commis comme délit, sauf qu'ils n'ont pas les bons papiers, ils ont reçu un négatif. Et parfois, ils ne savent pas où aller. Les jeunes, ils peuvent y rester jusqu'à 18 mois, les hommes, et les femmes et les enfants jusqu'à un an. Est-ce que cela est tolérable dans un pays qui a signé la Convention de Genève et qui, en principe, devrait respecter la Suisse en premier les droits de l'homme ?
Là, vous venez d'aborder les enjeux humains, mais au niveau politique, qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi est-ce qu'on tend en fait vers une politique de plus en plus restrictive à l'endroit des migrants qui seraient susceptibles d'être accueillis en Suisse ?
C'est une tendance européenne. On cherche de faire toujours moins en espérant que les gens vont ailleurs. Je pense personnellement que c'est complètement aveugle parce que les requérants d'asile sont, dans une grande part des jeunes, c'est des familles, donc ils sont prêts à s'intégrer dans notre société, à devenir partie. Même donc, si on ne pense pas au côté, disons, humanitaire, on pense tout simplement égoïstiquement à l'avieillissement de la population. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée, comme l'a fait l'Allemagne d'ailleurs, d'accueillir plus et de mettre à disposition de l'argent parce qu'ils puissent s'intégrer vite dans notre vie et faire partie de notre société? Ce n'est pas le cas. L'Europe entière, elle est en train de bâtir des murs. Il y a des pays qui bâtissent de véritables murs. La Suisse ne l'a pas fait, mais il y a un système bureaucratique qui, c'est la même chose. On est champion de renvoi à Dublin. On ne donne pas des visas facilement. C'est très, très difficile de venir en Suisse. On est obligé de passer à travers les passeurs pour y arriver. On a renvoyé 3 964 mineurs non accompagnés dans l'année 2016. Et puis, les réponses qui viennent de l'Office fédéral des réfugiés, c'est de la migration, sont tout à fait pas satisfaisantes.
Mais qu'est-ce que vous répondez aux politiques qui vous disent que la barque est pleine ?
Non, la barque n'est pas pleine. On a marché partout en Suisse. On a vu des grandes, grandes maisons. On a vu des vaches bien soignées, des chevaux partout, notamment dans la Suisse orientale. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas de place ? Là, ils sont peut-être les gens qui votent plus à droite. Et il n'y a pas de réfugiés, pas du tout. Donc, il y a cette crainte qui est utilisée de façon politique. Mais c'est ridicule parce que les requérants d'asile, ils sont les 1% de la population. Est-ce qu'on n'est pas vraiment en mesure de soutenir ces gens? Si je pense au Liban, il y a une population à peu près comme la Suisse, moins, 104 millions. Ils accueillent 1 400 000 réfugiés de la Syrie. Est-ce qu'on peut laisser aux pays fragiles comme le Liban, comme la Jordanie, comme l'Éthiopie, de se charger de la crise migratoire? Chacun doit faire sa partie. La Suisse, l'Europe, elles doivent se partager ce petit défi.
Mais pour revenir au cœur de la marche, il semblerait que vous comptez beaucoup sur la population civile pour finalement reprendre un mandat politique. Qu'est-ce que ça implique ?
Alors, c'est un processus qui n'est pas facile à se faire, mais c'est vrai que, soyons moi-même politique, j'ai ressenti l'impuissance totale de faire des actes politiques qui restent parfois en apparence de réponse et sont oubliés. La droite est tellement forte que dans le canton où je vis, au Tessin, c'est pratiquement impossible de faire passer des choses qui ont à voir avec la migration.
Là, vous parlez en tant que politicienne.
Oui. Oui, tout à fait. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut, un mouvement qui est populaire, parce qu'ils ont soutenu la marche, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a les Verts, il y a la Iuso, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ce domaine, il y a aussi les jésuites, c'est-à-dire, c'est en respectant un manifeste qui est évidemment politique, tout le monde peut partager les mêmes esprits. Est-ce que l'accueil, c'est une question politique? Même le pape, il le dit, il faut accueillir plus, il faut ouvrir notre porte, parce que c'est le moment, c'est un moment historique pour faire ça. Après, on se dira, on n'a pas fait assez.
Mais vous ne pensez pas que la Suisse a perdu sa tradition de l'accueil en s'alignant justement sur les politiques européennes?
Bon, si on regarde la Suisse, cette politique de la barque est pleine n'est pas nouvelle. Ça a été toujours comme ça. On a fait cette politique pragmatique. Ceux qui peuvent travailler et travailler vite, et sans se faire du bruit, sont les bienvenus. Les autres, ils peuvent partir. C'est pas nouveau. On l'a fait avec les Italiens, les Portugais, on l'a fait avec les Espagnols, les Tamouls. Mais cette approche, ouais, ça nous porte bien sûr en sortant en sécurité en Suisse. Mais c'est aussi quelque chose que ça nous interroge vraiment. Qu'est-ce que c'est les droits humains? Est-ce qu'ils sont liés à la citoyenneté? Ou les droits humains sont pour tous, sont liés à l'être humain?
Mais parlant des droits humains dans le cadre en fait, de la politique qui est appliquée aujourd'hui, on fait une distinction entre les réfugiés dits économiques et les réfugiés dits politiques. Dans quelle mesure est-ce que finalement ce système ne va pas à l'encontre justement du respect des droits humains?
Alors, moi, je pense, quand je regarde l'attitude qu'il y a certaines personnes envers les réfugiés, je me demande à quel point on est avec un processus de déshumanisation. C'est quelque chose qui est connu, c'est un processus qui est toujours pareil. On commence à dire qu'il y a des différences entre moi et les autres, puis on commence à dire que les autres sont un peu moins bien que moi, et puis on commence à dire que les autres sont un peu dangereux pour moi, pour ma sécurité, et ça continue jusqu'à ce qu'on arrive à faire de véritables pogroms. On l'a eu avec la Deuxième Guerre mondiale, on l'a eu aussi au Rwanda. C'est un processus qui est connu et qu'on suit se mettre en place maintenant depuis 20 ans. Et c'est ce qu'il fait systématiquement l'UDC, la Lega. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est dangereux d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On fait cette distinction. Les droits fondamentaux, ils doivent donner à tout le monde. Stamattina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina, mi sono alzato. E ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire.
Est-ce que beaucoup de migrants et de réfugiés marchent avec vous?
Oui, il y a eu des Afghans, des Érythréens, des Éthiopiens, des Somaliens, Palestiniens, Irakiens, beaucoup. Et,
est-ce que ce sont des personnes sans papier?
Certains. On ne demande pas leur papier, on les invite à se joindre à nous. La marche est libre, tout le monde peut venir, c'est ça, on fait avec.
Est-ce que la marche serait une forme de résistance et une manière de contrer les paradoxes de la politique migratoire actuelle?
Oui, l'idée c'est ça, c'est de faire une forme de lutte politique qui soit transversale, qui soit accessible à tout le monde, qui soit simple. Il y en a eu des marches, je ne peux pas faire des comparaisons avec la marche du sel de Gandhi ou la marche de Luther King pour les droits des Noirs aux États-Unis. Mais l'essence de la marche, c'est ça, c'est aussi mettre à disposition son corps, c'est-à-dire on n'a plus rien à donner, on a essayé de faire des actes politiques, on a parlé, je parlais pendant des années à ce qui se passe dans la Méditerranée. On continue à avoir des gens qui se noient tous les jours et on s'en fiche. Ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de quelqu'un d'autre. Et puis finalement, on voit dans quelle direction ça va la politique. On vient de signer des accords avec la Libye à travers l'OIM. Il y a cette prétention de protéger les réfugiés en Libye, ce qui est complètement folle. Ce qui vient maintenant avec les accords Minniti et Serraï, c'est la même chose qu'il y a eu avec Gheddafi, Berlusconi, on la connaît, elle a été déjà dénoncée à la CEDU, ça a été déjà déclaré illégal il y a 10 ans, et après 10 ans, on revient avec les mêmes problèmes.
Et justement, qu'est-ce que vous répondez aux politiques suisses qui refusent en fait les voies de migration légales et qui défendent l'idée d'externalisation de politique des frontières?
L'histoire va vous juger, c'est simple. Il y aura du temps, on va compter les morts, et puis quelqu'un a une responsabilité.
Après la marche, qu'est-ce qu'il faudrait imaginer comme projet pour mieux soutenir cette cause et ce combat?
Après la marche, je dois faire les points sur ce qui s'est passé, parce que vraiment, on a rencontré plein d'associations. Il y en a partout qui font un sacré travail, des soutiens. Il y en a des petits, des grands, des anarchistes, des catholiques, des protestants. Les églises protestantes, ils font un grand travail. Donc, de mettre en réseau toute cette petite association et d'essayer peut-être de lancer, bien sûr, le débat public. On essaie toujours de le faire. Et peut-être il n'y aura pas qu'une marche. Peut-être on peut faire des autres. Bien sûr, je me rends compte maintenant que 20 personnes qui marchent, ça ne fait pas une grande pression. Mais si on arrive à mobiliser 150, 200 réfugiés requérants d'asile qui marchent tous les jours, alors là, ça fait un peu plus de pression. On verra.
Est-ce que vous pensez que la Suisse sera à moyen terme obligée de redéfinir sa politique migratoire?
On verra la direction que ça prend l'Europe, mais je ne pense pas. On va continuer avec cette politique d'externalisation des frontières. On va continuer à soutenir Frontex. Ça, c'est la direction qui prend l'Europe et la Suisse va suivre, tout simplement. Je pense qu'elle ne va pas changer sa politique. On l'a vu avec le summit qu'il y a eu à Berne dimanche, lundi, passer. Et donc, ça devient encore plus important que les gens, les civils, s'engagent. C'est vraiment un moment historique. On ne doit pas se laisser faire, parce que ce discours raciste, xénophobe, ça devient toujours plus fort. Et il faut quand même raconter des histoires. Moi, je pense que c'est aussi très important de rendre les histoires des migrants qui soient réelles, qui ne sont pas des nombres. On appelle Ahmed, on appelle, comme l'a fait hier, on a changé les noms des rues pour dire Noura, c'est quelqu'un, une histoire, a des enfants, elle était renvoyée, elle a été touchée par Dublin, elle a lutté, elle a gagné sa lutte. Merci au collectif R qui fait ce grand travail, c'est magnifique. Il faut rendre leur humanité à ces gens qui sont les héros de notre époque. Ils font des voyages épouvantables. C'est tellement dangereux de prendre la voie du désert ou la voie de l'Afghanistan sur la montagne et l'Iran. C'est tellement fatigant et difficile. On ne le fait pas pour rien. On ne le fait pas parce qu'on est obligé à partir. Il n'y a pas de chance. Et puis, ils sont là et on les traite comme des minorés, parfois, qui ne savent pas comment se débrouiller, comment se...
Est-ce que vous avez le sentiment, par les personnes que vous avez rencontrées donc en marchant depuis un mois, qu'effectivement, il existe une autre Suisse, une Suisse plus ouverte et solidaire ?
Ah oui, bien sûr. On a rencontré plein d'associations qui font un sacré travail. Vraiment, ils s'engagent, ils font de tout. On était accueillis partout, de Cours, Saint-Gall, Basel, Zurich, mais même dans les petits villages. Je vous raconte une anecdote petite. On était dans un village au Grison. C'est un petit village, 130 personnes, et fromage. Et on rencontre le maire qui nous dit qu'ils ont ôté chez eux, dans la protection civile, 70 requérants d'asile pour 6 mois. Et au début, tout le monde était contre. Ils avaient plein de craintes et ils ne voulaient pas. Et puis, au bout de 6 mois, quand ils sont partis, ils étaient tristes. Parce qu'ils ont eu une bonne expérience, ils ont partagé la vie, ils ont coupé du bois, ils ont fait... Et ça, c'est les expériences qu'on aimerait mettre en valeur. Parce que c'est ce que je disais, c'est à travers les rencontres qu'on peut se faire des liens, on peut se faire de l'amitié. Et un des paradoxes, c'est que là où il n'y a pas de requérants d'asile, pas du tout, ils sont plus racistes et xénophobes que là où il y en a beaucoup et ils doivent partager la vie.
Lisa Bozia-Mira, au micro de Daniel, qu'on remercie. La Suisse, ces dernières années, semble en effet s'éloigner d'une certaine tradition humanitaire. Et on voit se dessiner une loi sur l'asile de plus en plus restrictive, ce qui dénonce, entre autres, cette marche partie le 15 octobre du Tessin et qui prendra fin le 10 décembre à 16h à Bellinzone, le 10 décembre étant la journée mondiale des droits de l'homme. Dans l'intervalle, vous pouvez encore suivre la marche à raison d'une journée ou même d'une demi-journée, voire plus ou moins. Selon vos disponibilités. Le trajet et les horaires sont à consulter en ligne sur benvenifugitivesmarche.ch/la-route. On vous met bien sûr le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup d'ailleurs à Daniel pour ce sujet.
Radio Django, la rose des vents.
Les âmes naissent libres, dignes de vie et de respect. Elle nous rêve debout et ne meurt jamais. Chaque âme est naturellement reliée aux autres par un réseau de valeurs, de confiance et de bonheur. Patrimoine de la terre intérieure, jardin fertile et ressources inépuisables d'humanité, elle mérite protection et bienveillance au titre des espèces invisibles. Elle constitue notre lien indéfectible de fraternité avec les générations d'hier et celles de demain. Douées de forces invisibles, elles ne sont soumises à aucune limitation de courage et de beauté. Toute âme a le droit imprescriptible de se sentir chez elle dans chaque tradition spirituelle. C'est à l'épreuve de l'histoire que les âmes forgent leur singularité et leur noblesse. Elles ont une aspiration naturelle à l'unité dans la paix du vivant. Chaque âme brisée a le droit imprescriptible à se relever, à être nourrie et guérie. Si les âmes sont libres et nomades par nature, elles ont aussi la force d'habiter ton cœur, ton pays, ton village, ta banlieue, une frontière, une prison. La souffrance, un exil et notre planète. Toute âme porte en elle les ressources et l'obstination à vivre debout, même dans une société injuste, face à laquelle elle est irrésistiblement le premier refuge et le dernier espoir pour la changer. Les droits de l'âme valent pour toutes, y compris celles qui n'ont jamais servi ou se sont égarées. Chaque être humain peut délibérément choisir de vendre son âme. N'est pas à n'importe qui.
Radio Django, culture.
18h45, on passe à Cultiver Lausanne. C'est avec toi, Isaura. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Ce soir, on va s'immerger dans l'univers de l'art contemporain avec La Placette, un espace qui expose des œuvres d'artistes confirmés ou émergents de la scène romande à Lausanne.
Oui, Fabien, exactement. On va parler d'art contemporain et d'un concept très original avec l'espace La Placette. Alors La Placette, c'est un lieu dynamique. Chaque mois, un nouvel artiste est invité à prendre possession des lieux avec une œuvre qui fait écho à la précédente. L'espace d'exposition est articulé en deux parties. Il y a une vitrine accessible en tout temps et un local intérieur de 30 mètres carrés où est présentée la suite du travail de l'artiste convié.
Mais alors, si j'ai bien compris, c'est un peu une façon d'installer l'art contemporain en ville.
Oui, et en le rendant accessible à tous, que ce soit des amateurs d'art comme des curieux de passage, en mettant une œuvre visible en tout temps depuis la rue. Et La Placette a ouvert ses portes en 2004 et depuis 2012, les locaux se trouvent à la rue près du marché 19, donc à Lausanne. À ce jour, La Placette a exposé 158 artistes confirmés ou émergents de la scène romande.
Effectivement, c'est tout à fait considérable. D'ailleurs, on a l'occasion et la chance ce soir de recevoir Lorraine Pidoux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de La Placette. Alors, expliquez-nous qui est à l'origine de cette initiative, quelles étaient les envies des fondateurs de créer cet espace.
Les fondateurs, c'est Adrien Rovero, qui enseigne le design à l'école, et puis Grégory Gautuet. Et ces deux personnes étaient des amis d'enfance. À un certain moment, il y en a un qui est parti à l'école pour faire sa formation de designer et l'autre qui a fait le CFC d'ébéniste. Et puis leur idée, c'était de ne pas perdre le contact et puis de se présenter à tour de rôle les travaux qu'ils faisaient dans une vitrine que leur avait prêtée une amie. Donc à la base, il n'y avait vraiment pas de projet de galerie ou d'espace d'art. Et puis au fur et à mesure, ils ont rencontré des personnes dans leur formation et ils ont commencé à inviter d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça que tout est parti.
Oui, Lorraine Pidoux, moi j'ai une question. Quelle est la spécificité de La Placette dans le paysage culturel lausannois?
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espaces d'art indépendants à Lausanne. Et notre spécificité, c'est la vitrine, en fait. C'est vraiment ça qui permet d'avoir une visibilité permanente de l'œuvre qui est exposée. L'autre spécificité, c'est le rythme, puisqu'on accueille un artiste par mois. Vous l'avez dit, on est à 158, donc c'est un rythme assez soutenu. Et puis peut-être notre dernière spécificité, c'est que plus de la moitié des gens qui font fonctionner La Placette ne sont pas directement issus du domaine artistique. Ce qui nous permet d'avoir un autre regard, de faire un pas de côté. On a par exemple un avocat à Berne, une programmatrice au cinéma à Lausanne, moi qui suis archéologue de formation et qui enseigne le latin. Et puis sinon, on a quand même deux artistes, un peintre et un photographe.
Très bien. Et puis, donc, que souhaite amener La Placette à chacun des artistes qui viennent, qu'ils soient, comme on a dit, confirmés ou émergents?
Je pense que les avantages qu'on propose aux artistes, commençons peut-être par les artistes émergents, ceux qui sortent des écoles d'art de Suisse romande, c'est de pouvoir avoir une forme de tremplin, une première expo, faire l'expérience de tenir des délais, de rédiger un texte, de trouver un titre, de faire quelque chose qui fonctionne. Et puis pour les artistes, on va dire plus confirmés, hein, parce que voilà, on n'accueille pas non plus des gens qui sont des grandes stars, eh bien, c'est de pouvoir expérimenter quelque chose qu'ils ne feraient pas forcément dans une galerie ou dans un lieu à vocation commerciale, puisqu'à La Placette, on ne fait pas de vente. Donc, autrement dit, ils peuvent prendre le risque de se planter. Puisque nous, on ne va pas vendre.
Qu'est-ce que ça veut dire se planter concrètement pour les non-artistes que nous sommes?
Se planter, c'est peut-être faire une exposition qui n'obtient pas l'unanimité de ceux qui l'ont organisée et puis des spectateurs. Mais là, j'aimerais souligner justement, parce que je pense qu'on va parler du choix. On est cinq à La Placette.
Comment vous les choisissez?
Alors, on se réunit à la fin de l'année, on fait une sélection à cinq. Cette sélection, elle se fait sur des coups de cœur. Je crois vraiment qu'on ne peut pas justifier autrement, hein, vu qu'on n'a pas non plus... on ne prétend pas être des curateurs, donc on fonctionne au coup de cœur en essayant de varier les genres qu'on expose. Et puis après, maintenant, sur le nombre d'années qu'on fonctionne ensemble, on n'a jamais eu l'unanimité pour quelqu'un ou contre quelqu'un. C'est toujours assez partagé. Puis ça nous permet d'en discuter aussi, c'est ça qui est intéressant, puisque l'artiste est là au vernissage, que le public est là aussi seulement ce soir-là, eh bien on en discute.
On vous posait la question à l'instant du choix. Est-ce qu'il y a un genre d'art qui est plus mis en avant, que vous préférez peut-être, que ce soit du dessin, de la peinture, du design, de la photo, je ne sais quoi?
Non.
C'est vraiment égal?
Oui.
Il y a de tout, en fait.
Oui.
pas de limite. Moi, j'ai une autre question. Collaborez-vous avec d'autres acteurs culturels en Suisse?
Ce n'est pas notre première vocation, mais ça nous arrive évidemment de collaborer. Puisqu'on sort du week-end des urbaines, on avait collaboré avec eux en 2005 en proposant à l'auto. On collabore régulièrement avec la FLAC, la Fondation Lausannoise pour l'art contemporain. On a eu une exposition au Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains, le CACI. Et puis sinon, on collabore avec tous les autres espaces d'art indépendants de Lausanne. Urgent Paradise, Tunnel, Standard de Luxe, Circuit, avec qui on se réunit une fois par mois pour discuter depuis qu'il y a un nouveau chef de service à la culture à Lausanne. Ah ben c'est très intéressant.
Oui, expliquez-nous justement, ça change quoi concrètement?
Concrètement, ces discussions?
Oui.
Ça, c'est peut-être un autre sujet que je...
Non, mais bon, déjà d'avoir un nouveau répondant de la ville.
On verra ce que ça va changer.
Rien pour l'instant.
Pour l'instant, rien. Bon, ben voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Isaura.
Alors, moi, j'aimerais savoir plus concrètement comment se déroule une exposition. Est-ce qu'il y a un vernissage à chaque fois de prévu où l'artiste est là ou pas? Et puis, où est-ce qu'on peut trouver les informations concernant ce que propose la placette?
Alors, les artistes sont toujours venus au vernissage. Je crois que leur record a été battu par ceux qui sont arrivés une heure avant. Mais non, sinon, ils sont toujours là. Et puis, concrètement, les informations, on peut les avoir sur le site internet de la placette, sur la page Facebook. Et puis, en dehors du vernissage, on est fermé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vu qu'on ne fait pas de vente, on n'attend pas des clients sur une chaise.
Donc, les gens peuvent venir visiter à quelle occasion, hormis le vernissage?
Ils peuvent prendre rendez-vous, mais ça ne va pas nous arranger.
Et puis, vous dites que vous ne faites pas de vente, mais alors comment vous financez la placette? Comment ça fonctionne?
Alors, on a un budget annuel de 14 000 francs qui provient de fonds publics et de fonds privés, et puis également du travail bénévole des gens de la placette et puis des artistes. Et je pense que c'est important de soutenir les lieux comme la placette ou les autres espaces d'art indépendants de Lausanne, parce qu'on a tous un point commun. Vous nous demandez ce qu'apportaient les discussions qu'on a tous ensemble. C'est qu'on est capable de faire des choses formidables, inouïes, avec très peu d'argent. Mais notre autre point commun, c'est qu'il nous en faudrait tous un peu plus pour que les artistes puissent vivre de leur travail.
Il y a beaucoup de domaines où c'est comme ça, on aurait toujours besoin d'un petit peu plus. Actuellement, on le disait en introduction, vous avez donc quasiment en permanence des artistes. Actuellement, vous avez Bruno Eberli qui expose chez vous. Et Bruno Eberli est à nos côtés dans le studio. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes, vous êtes donc artiste, vous êtes photographe de formation à l'École cantonale d'art de Lausanne. Et vous avez un master en art visuel de la Haute École d'art et de design de Genève. Vous avez même dernièrement reçu le prix coup de cœur de la Fondation de la Haid pour votre travail, et vous avez été sélectionné par l'Office cantonal de la culture pour une résidence de la Cité des Arts de Paris. C'est la première fois que vous présentez Bruno solo. Alors, on aura l'occasion de vivre un petit peu plus votre parcours et votre vie la semaine prochaine, hein, puisqu'on vous reçoit pour parler de votre parcours. Mais quel est l'avantage pour vous de pouvoir exposer à la placette?
Comme disait Lorraine avant, déjà c'est un espace qui propose aux artistes émergents un espace qui est vraiment super et qui est assez particulier puisqu'il y a cette vitrine, donc qui donne, enfin tout le monde peut voir ce qu'on fait, et du coup c'est aussi un challenge quelque part de produire quelque chose qui est pas seulement pour un public on va dire averti, mais pour un peu monsieur et madame tout le monde qui passerait devant, et du coup c'est un sacré challenge. Et une magnifique occasion de montrer ce qu'on fait et puis de travailler sur notre art.
Et puis, vous avez dit que vous envisagez la vitrine de la placette comme un espace désactivé où l'objet est à la fois sculpture et ruine. Alors, qu'entendez-vous par là ?
Disons que voilà, quand on passe devant la vitrine, on voit une sculpture. Une sculpture qui a un regard vide, qui ne bouge pas, donc qui est désactivée. Ça, on pourra en parler un peu plus la semaine prochaine quand je présenterai mon travail. Mais voilà, c'est une sculpture qui est à la fois vivante et morte, et puis qui a un regard vide, donc que je considère dans une pratique élargie comme quelque chose d'inactif et d'inerte, on va dire. Et voilà, c'est un peu ce que j'essaye de dire.
Et donc, à la base, vous êtes un photographe. On va en reparler sûrement, mais pourquoi avoir réalisé alors une sculpture pour la vitrine de la placette ?
En fait...
Et pas des photos.
Exactement. En fait, les photos sont à l'intérieur. Donc, les gens qui sont venus au vernissage le savent, et ceux qui ne sont pas venus ne le sauront pas. mais c'est quelque chose qui revient souvent dans mon travail. J'essaye de travailler autour des images, mais autour des objets aussi. C'est une espèce d'aller-retour à chaque fois entre les deux. Du coup, c'est... La pratique de photographe est plutôt un point de départ que quelque chose qui me suit tout le temps. C'est une réflexion qui est autour de ça.
Lorraine Pidoux, pour vous, vous avez choisi Bruno Eberli pour ses prestations de photographe ou de sculpteur ?
C'est pas moi qui l'ai choisi.
C'est pas vous.
Ah. Bon, mais je suis très contente de ce choix.
Vous êtes contente du choix pour les sculptures ?
Blague à part, une fois qu'on a choisi quelqu'un, on le laisse complètement libre de faire ce qu'il veut. On n'intervient pas du tout. Voilà, donc si on fait venir un photographe qui fait de la sculpture, c'est parfait.
Pourquoi pas ?
Et jusqu'à quand peut-on voir l'œuvre de Bruno ?
1er janvier.
D'accord, très bien.
Magnifique.
Voilà. Alors moi, je vous conseille de faire un petit tour par la rue Pré du Marché pour vous plonger l'espace d'un instant dans un univers poétique qui rompt avec le quotidien. Et tout cela juste en jetant un petit coup d'œil à l'intérieur de ce petit espace qui s'offre à tous les passants sans rien demander en échange. C'est l'occasion d'avoir un petit aperçu de l'art contemporain en ville et en toute simplicité.
Mais oui, l'art contemporain, on en parle de temps en temps, mais il faut aller voir. Et c'est l'occasion de le faire dans cette vitrine de la Placette. Merci beaucoup Bruno Eberli d'être passé ce soir sur Radio Django.
Merci à vous.
On aura l'occasion de redécouvrir la semaine prochaine l'intégralité de votre parcours et de votre œuvre. On rappelle que vous êtes exposé à la Placette jusqu'au 1er janvier. Voilà, donc vous pouvez vous y rendre. Donc c'est au cœur de Lausanne. Et puis merci également à vous, Lorraine Pidoux, présidente de la Placette. Merci.
Merci.
Une belle soirée. Un sujet que vous pouvez réécouter et retrouver avec tous les liens sur notre site, grâce à Isaora, sur notre site, donc www.django.fm. Belle soirée.
Belle soirée.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé de l'initiative No Bilag dans la pause syndicale, des droits de l'homme au travers d'une marche tessinoise et de l'espace d'exposition nommé La Placette. Tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous vous invitons à venir nous rendre visite ici à Pôle Sud. Pour deux raisons, parce que tout simplement c'est sympa de partager un petit verre ensemble, et puis aussi parce que c'est la semaine du marché de Noël solidaire de Pôle Sud. Ce sera d'ailleurs l'objet de Vivre à Lausanne. Et puis en culture, on recevra notre invité de ce soir, un de nos deux invités de ce soir, Bruno Eberli, qui expose actuellement à la Placette. Nous ferons un tour de son œuvre plus personnelle et plus globalement. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau Grand Direct à écouter, comme chaque semaine, sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique. Et puis le programme est à suivre sur notre Facebook également, Radio Django. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes. Il est presque 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fr.